Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi mi senya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Si vous êtes des habitués de l'épopée des musiques noires, vous vous demandez sûrement dans quel univers musical nous allons vous emmener aujourd'hui. Ces quelques notes de piano vont peut-être vous éclairer, notamment si vous nous écoutez dans les Caraïbes et précisément en Martinique. Cette musique hybride qui fait appel au jazz et au bélé est une forme d'expression ancestrale, comme va nous le confirmer Hervé Selkal. Soyez le bienvenu.
Bonjour.
Alors, avant toute chose, qu'est-ce que le bélé ou bel air en français ?
Alors, le bélé, c'est une musique, une danse, un état d'esprit, expression corporelle, expression du langage. C'est un art. C'est un art qui mélange danse, musique, chant. C'est un style de vie qui accompagnait les gens dans le quotidien. Parce qu'il y avait un bélé pour chaque moment. Bélé du travail, du divertissement, bélé des vies mortuaires. On ne pouvait pas marcher sans qu'il y ait un rythme ou une danse bélé qui allait avec.
Est-ce qu'on peut dire que le bélé s'inscrit dans la lutte du peuple noir aux Caraïbes, comme les Negro Spirituals ou le blues aux États-Unis au même moment en plus ?
Oui, puisque c'est né de l'espoir des esclaves, le bélé. Et le jazz, je pense que c'est né aussi de cette envie de liberté. Donc il y a forcément des liens. Le bélé existe en Martinique, c'est cet art ancestral, tradition. Dans d'autres pays de la Caraïbe, dans les îles de la Caraïbe, il y a d'autres formes musicales qui se ressemblent. On pourrait même dire qu'on a en commun cette culture qui est influencée aussi d'Europe. Mais on a en commun le tac-pi-tac-pi-tac-tac, qui est une espèce de clave. À Cuba, on peut la retrouver. En Haïti, Saint-Domingue, Brésil, on peut retrouver ça aussi. Donc,
c'est le même arbre.
Voilà. Chacun a développé son style, sa musique. Mais on se rend compte que l'origine est la même. Et à chaque fois, c'est les mêmes histoires. Même en traversant les océans du côté de la Réunion, c'est aussi pareil qu'avec le Maloya. C'est exactement la même chose. À Cuba, la Tumba Francisa, Haïti, le Dumbélé, c'est exactement les mêmes racines. Mais l'Afrique y est pour beaucoup.
On dit souvent que les jazzmen afro-américains ont perdu le groove africain au fil des siècles. Qu'en est-il des Caribéens ? Est-ce que le tambour, justement, a permis à ce groove de résister ?
Tout à fait. À un moment, il s'était éteint parce que on nous empêchait. On empêchait que cette tradition perdure, que cette culture émerge. Les années ont passé et finalement, ça revient. Ça revient, il y a une émulation autour de la musique traditionnelle, le bélé, qui n'est pas la biguine, hein. Parce que la biguine est venue bien après. Le bélé est à nouveau dans la vie des gens.
Est-ce que ça veut dire que finalement le bélé s'est exprimé au moment où les esclaves sont devenus des hommes libres en 1848, au moment de l'abolition de l'esclavage ?
Même pendant qu'il y avait l'esclavage, il y avait déjà, parce que c'est né des esclaves qui s'enfuyaient, les Negmaons. Donc Il le pratiquait déjà, il dansait déjà, parce qu'il fallait bien trouver de quoi avoir l'espoir. Donc, il le pratiquait, que c'était pas su. Et justement, quand les colons ont su que ça existait, ils voulaient empêcher cette forme d'expression pour que ça n'aille pas plus loin.
Et, voilà. Et pour qu'ils puissent maîtriser la communauté noire sur place. Est-ce que vous avez appris le bélé ou est-ce qu'il est en vous depuis votre naissance?
Moi, je crois qu'il est en moi. Parce que je n'ai pas appris, j'observais, je regardais, j'écoutais beaucoup directement parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'enregistrements bélé. Je crois qu'il est en moi parce que j'ai toujours voulu danser, jouer. Je ne pouvais pas parce que on m'avait pas mis sur un tambour. Moi, je savais jouer du piano, que du piano. Et dans le bélé, il n'y avait pas de place pour le piano. C'est une musique traditionnelle, c'est le tambour, c'est le tibois, ce sont les danseurs, les chants. C'est en moi, oui. On peut dire que c'est en moi.
Vous êtes de formation classique, au piano.
Oui, oui.
À quel moment vous faites entrer le bélé dans votre musicalité?
Dès le commencement. Je me souviens justement quand j'ai commencé, j'apprenais du Bach, du Liszt, Chopin. Et je trouvais que Chopin, il y avait dans les mélodies des fois des ritournelles qui ressemblaient à ce que j'entendais dans ma culture, dans le bélé. Et des fois, justement, en travaillant des morceaux de Chopin, je m'arrêtais sur des parties et je faisais tourner. Je faisais tourner avec le tibois, tac, pitac, pitac, tac, et je faisais ça tourner, tourner. Du coup, j'apprenais pas le reste du morceau. Donc, je restais pendant des heures sous le même truc à faire tourner, à faire tourner. Ouais.
N'avez pas honte de détourner comme ça les œuvres de grands compositeurs classiques. Et le jazz, alors, c'est un apprentissage ou une seconde nature chez vous?
Non, seconde nature. Évidemment, j'avais toujours cette envie de musique d'ailleurs. Donc, le jazz, forcément, c'est la liberté, c'est l'ouverture à d'autres formes musicales. Donc, ça rentrait aussi dans l'idée que je me faisais de la musique en général.
Est-ce que vous écoutez beaucoup de jazz assez régulièrement?
Oui. J'écoutais beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Par exemple?
Jelly Roll Morton, Oscar Peterson, Bud Powell, Keith Jarrett, Herbie Hancock, Petrucciani. Beaucoup d'influence, beaucoup. Alain Jean-Marie aussi.
Alain Jean-Marie.
Mario Canouge.
Ce sont des gens que vous connaissez forcément, puisqu'ils font partie de l'univers caraïbéen.
Exactement.
En tout cas, votre univers sonore est très riche, à en juger par ce quadrille numéro 1, extrait de Bel Air for Piano, Hervé Selcal.
Thank you.
Quel mélange ! On entend le ragtime des origines, la force expressive des Caraïbes et la musique classique européenne, avec ce quadrille qu'on aurait pu danser dans les salons de la haute société au 19e siècle. Est-ce que ce résumé vous convient, Hervé Selcal ?
Tout à fait. Donc la quadrille qui est une danse de salon de chez nous. En fait, on appelle quadrille plus en Guadeloupe. Chez nous, ça s'appelle la haute taille. Voilà. Moi, j'ai choisi quadrille. J'ai pas écrit ça Q-U-A, mais j'ai écrit un K apostrophe D-R-I-L-L. Voilà.
Est-ce que vous avez étudié l'histoire de la musique? Et est-ce qu'il faut connaître l'histoire du jazz, du guoka ou du ballet pour interpréter dignement toutes ces formes d'expression?
Oui, il faut connaître l'histoire de ces musiques et il faut connaître les cultures aussi. La culture antillaise, c'est une façon d'être, c'est un comportement, ce sont des croyances. On parle de culture antillaise et d'une identité. Et forcément, dans le ballet, on retrouve toutes ces mimiques, tous ces, dans la danse, dans la, comment un Antillais marche, comment, et c'est nous. Donc on peut pas le mettre de côté comme ça, c'est pas possible.
Est-ce que la Grande Amérique, qui est à deux pas de la Martinique, est une terre qui vous attire?
Tout à fait. J'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais je cherche à resserrer les liens qu'il peut y avoir entre plein de musique et des cultures d'Amérique pour encore enrichir mon travail autour du ballet, oui.
Je vous pose cette question parce que nous avons retrouvé dans nos archives le témoignage d'Aimé Césaire. Il était interrogé par nos confrères de France Inter le 21 juillet 1963.
Si l'Afrique est pour moi un continent, sa terre maternelle, la musique anglo-saxonne m'effraie. Ce n'est certainement pas un pays qui m'attire. Pour moi, c'est le pays de la peur. Pas l'Amérique du Sud, parce que l'Amérique du Sud et les Antilles, c'est la même chose. Mais vraiment, je suis aussi peu possible accessible à la civilisation américaine, à l'anglo-saxonne. Je pense d'ailleurs que ça s'explique très bien. C'est parce que, au fond, je suis un paysan. Je ne vais pas me vanter d'être un paysan et de labourer mon champ, ce serait de la démagogie, ce n'est pas vrai. Mais enfin, mes ascendants sont paysannes, je suis de milieu paysan et je vois bien que je suis en communion avec la terre. Au fond, c'est ça avec quoi je suis en accord. Et alors, cette civilisation industrielle, bien qu'elle soit américaine, elle me dépasse, elle m'écrase, j'y suis perdu, plus que dans la forêt vierge, et j'y suis malheureux. Il n'y a aucun appel vraiment des États-Unis pour moi. J'ai eu souvent l'occasion d'y aller. On m'a invité à faire des leçons dans des universités. Je suis de très près la lutte des nègres américains, qui pour moi est un des très très grands phénomènes du monde actuel. Mais je dois dire, je n'ai pas de sympathie pour la civilisation de ce pays-là.
Hervé Selcal, est-ce que vous comprenez le point de vue d'Aimé Césaire? Est-ce que les États-Unis sont toujours aujourd'hui ce pays arrogant, brutal et violent que semble décrire Aimé Césaire?
Tout à fait, c'est toujours le cas. Sauf que je pense qu'il faut quand même dépasser cela. Il faut quand même mettre le pied là-dedans pour montrer qu'il n'y a pas que ce pays, il n'y a pas qu'une façon de faire. Il y a d'autres façons de faire et d'y arriver. Donc c'est pour cela que moi, je veux quand même y aller. Faire découvrir, par exemple, le jazz ballet. Le jazz ballet, il y a du jazz là-bas, il y a toutes sortes de jazz, mais il n'y a pas de jazz ballet. Donc, il faut faire connaître, il faut aller jouer, il faut en parler.
Est-ce qu'aux Antilles, vous ressentez, plus qu'en métropole, l'influence géopolitique américaine sur votre culture? Parce que ce sont vos voisins.
Carrément, ils sont très présents. Depuis mon enfance, on est envahis de musique américaine, ce qui fait que notre culture était beaucoup délaissée. Dans les radios, on n'entendait pas du traditionnel, par exemple.
Qu'est-ce qu'on entend dans les radios?
Ah ben, on entend R&B, on entend de la pop, on entend de la variété. La tradition, c'est vraiment, s'il y a quelqu'un qui, un animateur, qui aime vraiment la tradition, qui en passe, mais c'est pas encore gagné. Mais, quand on va en Martinique, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup d'associations qui œuvrent pour parler créole. Voilà, ça commence à venir.
Et la musique est peut-être le meilleur vecteur pour justement défendre une culture et des traditions. Vous vous méfiez de la force de frappe américaine ou pas?
Il faut s'en inspirer. Pas du mauvais côté, mais du bon côté. Ils sont perfectionnistes. les meilleurs jazzman, on va les retrouver aux États-Unis. Il y en a partout dans le monde, mais aux États-Unis quand même, on a ces modèles des grands jazzman. On est influencé malgré nous, on est influencé.
Mais vous résistez.
On résiste. C'est pour ça que je dis qu'il faut se servir, il faut prendre ce qu'ils ont de bon.
Est-ce que Bel Air for Piano n'est pas un plaidoyer contre l'hégémonie américaine et pour la défense des traditions antillaises, et en l'occurrence martiniquaises?
On va dire que, bon, moi j'essaie de faire connaître, de transmettre. J'espère que les jeunes dans le monde entier comprendront ma démarche et connaîtront cette musique, cette culture, ces cultures qui sont quand même... on a tous les éléments du monde. On a tous les éléments des influences du monde dans notre culture, puisque notre culture, c'est ça, c'est les choses venues d'ailleurs et tout, sans qu'aucun élément soit mis en avant en particulier. C'est ça qui est bizarre, c'est que on a tout ça, mais voilà.
Mais c'est possible. Regardez la Jamaïque, le reggae est devenu l'une des formes d'expression internationale.
Ouais, internationale.
Tout le monde connaît, et ça partait d'une île,
exactement,
la Jamaïque. Donc, tout est possible.
Tout est possible.
Nous sommes au 21e siècle, le bélé, on le disait, a au moins 150 ans. Mmh. Est-ce qu'il est aisé d'inscrire une forme d'expression ancestrale comme celle-ci dans l'univers sonore d'aujourd'hui? Est-ce que le public prend aujourd'hui le temps de s'intéresser à ces traditions, à l'heure du rap, du R&B, voire des musiques électroniques?
Ben, tout à fait. L'idée aussi, ce serait de le mélanger à ces musiques actuelles, électroniques, ou même si c'est une musique très acoustique, où on joue qu'avec le tambour, je ne vois pas pourquoi. Moi, je suis tout à fait pour que ça se mélange. Il faut l'exposer, donner les outils pour l'exposer. Le djembé, tout le monde joue du djembé dans le monde entier aujourd'hui, bien ou mal, mais tout le monde s'est tapé sur un djembé. Pourquoi pas sur un tambour belé, sur un tambour ka, pour le gros ka. Pour moi, il faut l'exposer, il faut donner la chance aux autres. Ça doit être universel, ça doit être international, ça doit être un langage universel pour tout le monde.
C'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Merci beaucoup Hervé Selcal.
Ben, merci à toi, Jo.
Et revenez souvent nous voir.
Ben, avec plaisir.
Comme ça, on connaîtra mieux les traditions antillaises et notamment le bélé de Martinique. Les temps modernes, Hervé Selcal dans l'épopée des musiques noires. Les temps modernes, un extrait du dernier album d'Hervé Selcal que nous recommandons chaudement et intitulé Bel Air for Piano. Dans quelques instants, nous allons rester dans les Caraïbes avec le saxophoniste guadeloupéen Jacques Schwartzbart qui nous présentera Jazz Racine Haïti, une plongée musicale dans les traditions vaudou haïtiennes qui mérite largement une épopée. C'est juste après le rappel de l'actualité. A tout de suite.
L'épopée des musiques noires. Joe Farmer.
It don't mean a thing.
Nathalie Laporte.
If it ain't got that swing.
Jigida, kani jigi misenya, omani kobena.
L'épopée des musiques noires.
It's okay, you know, It's okay.
Ah, oh, merci.
Après avoir étudié dans cette émission le Bélé de Martinique grâce à l'album d'Hervé Selcal que vous avez découvert sur nos ondes, nous allons nous plonger dans l'univers sonore d'un saxophoniste guadeloupéen passionné par la musique racine d'Haïti et le jazz, quel joli mélange, Jacques Schwartzbart, soyez le bienvenu.
Merci Joe.
Vous n'êtes pas venu seul, puisqu'à vos côtés rayonne dans ce studio une écrivaine de renom, Madame Simone Schwartzbart, qui n'est autre que votre mère, et que nous sommes enchantés de saluer ici. Merci de votre présence.
Bonsoir.
Vous ne serez pas trop de deux pour évoquer les traditions haïtiennes, car au-delà de la musique, c'est un mode de vie que nous allons évoquer aujourd'hui. Pour commencer, qu'est-ce que la musique racine, Jacques Schwartzbart?
En fait, c'est en gros la musique des campagnes en Haïti, et ça recouvre en fait une multitude de styles musicaux. La musique troubadour, il y a la musique de contredanse, qui est la musique de quadri, il y a la musique rara, qui se joue avec les vaccines soit au carnaval, soit lors de la fête des morts. Et puis il y a cette musique qui pour moi est centrale et qui est l'opéra de la diaspora africaine, c'est la musique vaudou.
Comment êtes-vous entré dans cet univers musical-là, vous personnellement?
En fait, je suis tombé dedans petit, à la naissance, puisque c'est un héritage direct de ma mère, qui non seulement avait une belle collection de disques riche de toutes sortes de grands artistes, de grands chanteurs, de grands batteurs vaudou, mais qui connaissait en fait tous les chants par cœur. Et je l'entendais en fait plus souvent à travers la version de ma mère a cappella que sur les disques eux-mêmes. Donc ça m'a donné une relation privilégiée avec les mélodies vaudou en dehors même des rythmes.
Le mot vaudou fait souvent peur à ceux qui ne connaissent pas les rites et codes de ces anciennes traditions africaines. Comment présenteriez-vous le vaudou à nos auditeurs, Simone Schwartzbart?
Eh bien, je présenterai le vaudou tout simplement par, pas le mystère, mais le sacré, par également une espèce de traversée latérale et par le haut, également d'un mystère qui nous vient d'Afrique, qui nous vient de très loin. Et ce vaudou, donc, le mot recouvre un univers que les gens pensent occulte ou que les gens pensent maléfique. Mais il faut vraiment arrêter. Il faut justement écouter ces mélodies qui ne sont pas, en fait, à la disposition des gens. Très souvent. C'est cela que Jacques fait avec cet album, c'est qu'il faudrait que les gens écoutent tout simplement. Comme les gens n'ont pas l'occasion d'écouter la chose, eh bien, ils ne découvrent pas cette espèce de noblesse, de beauté, de lyrisme et de grandeur que recèle cette espèce de musique, que distille. On n'a pas besoin de comprendre le créole, on n'a pas besoin de chercher ce que c'est que cette religion vaudou. C'est en fait beaucoup plus qu'une religion, c'est un art de vivre, c'est un secret qu'on vous confie et que vous devez faire fructifier par vous-même.
Jacques?
Oui, c'est une sorte d'importation directe du panthéon qui était celui du vaudou, du Bénin, du Togo, d'Ahomé en fait, et du Nigeria. Donc, il y avait plusieurs versions de cette religion, la version Yoruba et la version Fon. Et il se trouve que tant à Cuba qu'au Brésil, c'est la culture Yoruba qui a dominé, puisque en fait, les cargos négriers recelaient essentiellement des gens de culture Yoruba. Mais effectivement, il y a eu un mélange Fon et Yoruba en direction donc d'Hispaniola, qui est devenu d'une part Haïti et du côté est Saint-Domingue aujourd'hui. Et ces gens de cultures différentes et de religions similaires, mais aussi avec leurs différences, mais aussi de langues différentes, ont dû trouver un terrain d'entente et quelque part reconstruire une nouvelle religion vaudou en Haïti.
Pourquoi avoir voulu mêler le jazz et le vaudou haïtien pour ce disque, Jacques Schwartzbart? Est-ce qu'il y a la liberté dans les deux formes d'expression?
Pour différentes raisons. D'abord, sur le plan purement historique, les racines du jazz, c'est le vaudou. On l'oublie, on l'occulte parfois intentionnellement.
On parle encore beaucoup de vaudou à la Nouvelle-Orléans.
Oui, mais au-delà d'en parler, la réalité, c'est que les gens qui ont créé le jazz venaient d'une culture vaudou. C'était des esclaves ou d'anciens esclaves de Martinique, Guadeloupe et Haïti. C'est facile, comment dire, d'oublier cela, mais en fait, ce serait plus logique de se le rappeler de temps en temps. Et moi, j'ai la chance de ne pas l'avoir oublié. Et aussi d'avoir pu, à travers mes voyages musicaux, comprendre tous les ponts qui existent. Et donc, déceler les origines de beaucoup de choses qu'on a vu se développer dans le jazz ou dans le blues, identifier leurs racines dans la musique vaudou en termes, par exemple, de complexité de gamme, de mode, en termes de complexité de composition. Donc, il y a déjà cette structure, il y a aussi l'utilisation d'espace, qui est une chose, en fait, que je n'ai jamais rencontrée. C'est seulement lorsque Monk s'est arrêté de jouer pendant un chorus entier sur un Back's Groove de Sonny Rollins, que finalement, dans l'histoire moderne, il y a eu l'utilisation du silence comme moyen d'expression. Mais ça, c'est quelque chose qui existe déjà dans la musique vaudou d'origine. Et parfois, le silence est plus long que le thème lui-même. Et ce silence est comme une sorte d'ouverture vers l'au-delà, une confrontation au néant, et c'est aussi un miroir.
Donc la meilleure façon, je pense, de comprendre tout ce que vous dites, c'est d'écouter un extrait de votre nouvel album, Jacques Schwartzbart.
Bien entendu.
Bien entendu. Voici Badès Ilé.
Oui.
Badet Zilé, Jacques Schwarzbart en 2014 sur l'album Jazz Racine Haïti paru chez Motema Music et soutenu par l'UNESCO dans le cadre du projet La Route de l'Esclave, ce qui m'amène à plusieurs questions. D'abord, doit-on considérer la musique racine comme une forme d'expression africaine avant d'être haïtienne? Ensuite, est-elle un écho de la rébellion des esclaves et est-ce que c'est une musique de résistance, Simone Schwarzbart?
Mais bien évidemment, c'est une musique de résistance puisque c'est un creuset, un lieu où les identités se refondaient, se reformaient et où, de nouveau, on pouvait se sentir, après des journées d'humiliation de toutes sortes et de dépouillement de soi, on pouvait se réapproprier son humanité et la dépasser et être chevauché par un dieu, ce qui faisait qu'on était connecté aux puissances de départ, aux puissances africaines, donc à son être même, à son fondement.
Mais historiquement, cette musique a galvanisé les troupes de la révolution haïtienne. Donc ce n'est pas une résistance simplement culturelle, ça a été une résistance militaire. Oui. Le vaudou était au centre de cette révolution. Et sans la puissance et l'inspiration que constitue le vaudou, je ne suis pas sûr que cette révolution aurait été très loin. Non seulement en termes de courage, de confiance en eux-mêmes que ça a octroyé aux forces donc, de la révolution, aux forces haïtiennes, mais aussi en termes de capacité d'intimidation, parce qu'ils ont flanqué la trouille aux Français qui voyaient des choses qu'ils ne comprenaient pas. Et donc, il y a eu, si vous voulez, un rôle absolument incontournable, majeur de la culture vaudou, non seulement dans la galvanisation des troupes haïtiennes, mais aussi dans l'effet d'intimidation des troupes françaises.
Est-ce que associer le jazz et la musique racine d'Haïti, c'est un choix militant? Est-ce que vous êtes un militant? Est-ce que vous appelez à la liberté, à un refus contre toute oppression en jouant cette musique-là?
Ça, de toute façon, je suis né militant de la liberté. Je suis métis, noir et juif. Donc, je viens de deux traditions de peuples qui ont subi des tragédies irréparables et qui sont passés par l'esclavage. Ma soif de liberté et aussi, quelque part, d'embrasser le monde au-delà des croyances et des couleurs et des communautés, c'est quelque chose qui est né de mon ADN, pratiquement. Mais dans ce projet particulièrement, il s'agit essentiellement de reconnecter le jazz à sa source, la culture de la diaspora africaine globalement à sa source. Parce que, en fait, comment m'est venu ce déclic de finalement dépasser le fait que je n'étais pas haïtien ou vaudouisant pour réaliser ce projet? C'est parce que j'ai finalement eu cette connexion à cette source africaine qui nous rassemble et qui nous connecte tous. Lorsque j'ai été jouer à Essaouira et que j'ai été invité à une lila, Gnawa, Gnawi, et qu'au bout de 10 heures de rester assis, paralysé, à voyager intérieurement très 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 loin, et que je suis revenu en moi, j'ai découvert finalement cette connexion avec l'Afrique. Et dans l'avion du retour à New York, ces chants que j'ai reçus donc, de par ma mère, ces chants vaudous haïtiens, et tout ce qu'ils véhiculaient d'énergie, de lumière, de dignité, de majesté, me sont venus d'un seul coup comme une grande bouffée d'inspiration. Et donc j'ai compris là qu'il me fallait absolument faire ce projet sur le vaudou et le jazz.
Parlons un peu de musique, Jacques Schwarzbart. Est-ce que la rythmique racine vous est familière? Est-ce qu'elle est proche du guoka de Guadeloupe dont vous êtes originaire?
Les claves qui constituent le squelette du rythme sont souvent les mêmes. Pas toujours. Il y a des claves qui sont différentes, soit plus longues, c'est-à-dire développées sur plus de mesures, soit avec des accents décalés. Donc il y a une plus grande variété, je dirais, de claves dans la musique racine, mais la clave fondamentale reste la même dans toute la Caraïbe. Donc ce sont des racines donc rythmiques qu'on trouve dans toute l'Afrique noire. Les claves d'Afrique noire, en fait, on les retrouve dans toutes les musiques sans exception. En fait.
À Cuba, au Brésil, d'ailleurs, oui. La musique racine porte d'autres noms en fonction des pays.
Mais non seulement ça, mais alors que la musique elle-même, mélodiquement, est très très différente d'une forme de vaudou à l'autre, rythmiquement, il y a beaucoup de similitudes de claves entre les rythmes brésiliens, les rythmes haïtiens, les rythmes cubains. Maintenant, effectivement, il y a une identité très marquée dans les détails. C'est, par exemple, le type de tambour. En Haïti, il y en a une grande, grande, grande variété qui va de petits tambours ou de petites percussions à des tambours qui sont plus grands que les hommes et sur lesquels il faut se hisser sur des escabeaux pour les jouer avec des bâtons en forme de fourche. Ce sont des tambours de basse qu'on peut entendre de très, 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 très loin et qui étaient justement utilisés dans la Révolution, puisqu'on parlait tout à l'heure de musique de résistance. On y est en plein, bien entendu. Alors que, par exemple, dans la Santeria, la musique bata, ce sont des petits tambours. Même le gros tambour n'est pas si gros que ça, si vous voulez. Il se tient entre les deux mains d'un humain normal. Alors que, oui, le gros tronc qu'on joue dans les basses des grands rassemblements de la souvenance en Haïti, c'est carrément plus lourd qu'un homme, quoi.
Simone Schwartzbart, j'aimerais avoir votre regard sur le travail de votre fils. Est-ce que la modernité de son jeu n'altère pas le sens et la valeur patrimoniale des traditions caraïbes ?
Vaste question et je ne pourrais pas vraiment répondre à cette question parce que rien n'est altéré. Les choses se transforment. C'est dans notre constitution même de notre univers caribéen que le mouvement s'installe, que la métamorphose s'installe. Vous savez, l'impermanence est une espèce de donnée initiale avec laquelle il faut absolument cheminer parce que les choses figées se détériorent alors que là, il renouvelle complètement et il emmène toute cette musique qui peut-être serait demeurée régionale ou régionaliste, il l'emmène à une autre écoute, et cela, c'est un petit peu sa créativité, c'est sa création, et il faut tout simplement saluer l'artiste.
Ça veut dire que le jazz permet toutes les audaces ?
Tout à fait, absolument. C'est une musique de liberté totale, et à ce point qu'elle est ressentie comme telle et qu'elle a contaminé la planète entière, le vaccin noir, même si les gens ne le savent pas, eh bien, il coule dans leurs veines à travers le jazz.
Et il a été inoculé il y a déjà plus de 400 ans. Oui. On peut en tout cas saluer la prise de risque et l'intelligence de vos productions, Jacques Schwartzbart. Et voici d'ailleurs un nouvel exemple. Thank you. Djonjon, c'est comme ça qu'on dit. Mon titre préféré de l'album Jazz Racine Haïti de Jacques Schwartzbart, sous l'œil bienveillant de Simone Schwartzbart, nos invités dans l'épopée. Est-ce que la musicalité des mots rejoint celle des notes, Simone Schwartzbart?
La musicalité des mots rejoint celle des notes et rejoint également celle du plat en lui-même. C'est juste une espèce de nourriture parfumée de la forêt avec des petits champignons des bois qui est vraiment très spécial. Et ce blues Djonjon est un blues qui vous fortifie à plusieurs titres. Justement, il vous met en appétit, voilà, en appétit de musique, en appétit de rythme, en appétit de mélodie. Et voilà, je pense que vraiment ce titre Blues Djonjon est un titre qui sonne.
Est-ce que l'on trouve l'inspiration grâce à la musicalité des mots, comme le ferait un jazzman en écoutant ses contemporains? Ça peut être aussi une question pour Jacques Schwartzbart d'ailleurs.
De toute façon, l'inspiration n'est jamais monolithique. Parfois, on ne sait même pas d'où elle vient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle vient de partout. Elle peut venir du regard sur un morceau de poussière. Et elle peut venir du regard sur l'infini. Elle peut venir du regard sur, comment dire, une étoile, mais aussi d'une lecture. Ça peut être un mot ou même un silence dans une conversation qui laisse effectivement pensif et qui soulève de toutes sortes de choses qui sont enfouies en nous, et tous ces sédiments deviennent quelque chose d'identifiable comme une source d'inspiration.
Qu'écoutiez-vous lorsque vous avez écrit Pluie et vent sur Télémé Miracle il y a quelques années?
Toujours pareil, j'écoutais les mélodies vaudou. Elles m'accompagnent jusqu'à présent, d'ailleurs, pour mon travail qui paraîtra bientôt et qui s'appellera Les enfants de solitude. C'est une musique d'accompagnement et c'est une musique de refondement également.
Et vous, Jacques, que lisiez-vous quand vous prépariez Sonekala, Abyss ou Immersion jadis?
Vous savez, en fait, j'ai beaucoup lu Carlos Castaneda. Un volume de Castaneda qui s'appelle L'art de rêver. Lorsqu'on voit qu'une activité telle que le rêve peut devenir une voie, une discipline qu'on développe et une façon d'appréhender non seulement ce monde, mais différentes dimensions de ce monde, mais au-delà de cela, d'autres mondes. On est obligé de rire des petites querelles de quartier, encore plus des petites querelles interraciales, ou alors d'en pleurer, hélas.
En tout cas, ce fut un plaisir de vous entendre tous les deux. Merci beaucoup.
Merci Joe.
Merci.
Est-ce que vous avez des concerts prévus à Port-au-Prince, en Haïti? Ça s'impose?
Écoutez, on y était en janvier 2012. Et donc, je pense que, comme dans tout festival, il laisse passer une période de 5 ans entre les programmations. Mais j'espère qu'ils font une exception pour Jazz Racine Haïti.
Obligé. Obligé. Et vous, Simone, donc votre actualité, rappelez-nous le titre du prochain ouvrage.
Les enfants de solitude.
Les enfants de solitude. Et ça paraît chez, vous savez déjà?
Au Seuil.
Très bien, Les enfants de solitude de Simone Schwartzbart, aux éditions du Seuil. Quoi qu'il en soit, il faut relire vos ouvrages. Merci à tous les deux d'être venus.
Merci Joe.
Et merci à Nathalie Laporte pour son ouverture d'esprit et sa rigueur en régie finale. Si vous êtes à Haïti ou ailleurs, vous pouvez évidemment réagir à cette émission sur la page Facebook de l'Épopée ou sur le compte Twitter RFI-Épopée. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.
L'Egba ou n'en barrière. Mais l'Egba ou n'en barrière, c'est où qui pote drapeau. C'est où qui apparaît le soleil pour l'oyau. Hey, a ti bon l'Egba ou nan barrière moi. Moi di l'Egba ou nan barrière. L'Egba ou nan barrière moi. C'est où qui porte drapeau? C'est où qu'apparaît soleil pour l'oyau? dit bon les gars, ou non barrière moi. Moi dit les gars, ou non barrière moi. C'est où qui porte des drapeaux, c'est où qui apparaît soleil pour loyer. C'est où qui porte des drapeaux. C'est où qui porte des drapeaux. Allez, c'est où qui porte des drapeaux. C'est où qui porte des drapeaux.